Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des portes.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons lire la première lecture dans Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Ce sont des paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées avant de remonter au ciel. Ces dernières paroles qu'il a citées. Matthieu 28, verset 18. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5e. Jean, chapitre 15, cette fameuse parabole qui nous indique tant et tant de grâces. Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et c'est ces derniers mots qui nous intéressent. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » S'il est écrit dans le psaume 108 qu'avec Dieu, vous ferez des exploits, il y a quand même cette vérité. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 24e, il y a une autre des dernières paroles du Seigneur Jésus avant de remonter au ciel. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49e. C'est les cinq derniers versets que nous allons lire de ce chapitre. Luc 24, verset 49e. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Et si nous devions résumer les trois textes que nous venons de lire, c'est « Allez, 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 mais quand même, allez sans la grâce de Dieu, allez sans la puissance du Saint-Esprit, que certainement de malheur aurons-nous à vivre. » Et si l'accent et la mission du Seigneur est justement sur cette vérité, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est une vérité que l'Église connaisse véritablement la mission qu'elle a reçue de la part de Dieu. La mission de l'Église, c'est pas de faire du nombre, c'est pas de faire des trucs qui plaisent au monde. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Des hommes et des femmes qui vraiment, sur la terre, se préparent à rencontrer Dieu. Moi, hier, je devais prêcher à cette église catholique, vous savez, et je leur ai dit à un moment donné, vous savez, moi, je ne prêche pas aux catholiques. Mais je ne prêche pas aux protestants, je ne prêche pas aux évangéliques, je ne prêche pas aux athées, je prêche aux hommes et aux femmes que Dieu aime. Et Dieu vous aime, et il veut vous sauver. et ne vous braquez pas par rapport à votre étiquette ou à votre dénomination. Dieu veut vous rencontrer. Et cette pensée du Seigneur Jésus qui a la véritable mission de l'Église, de toutes les Églises en vérité, faites de toutes les nations des disciples. Bien sûr qu'un véritable disciple va engendrer lui à son tour de véritables disciples et va connaître cette vie, devra connaître cette vie de l'Esprit. Cette mission, elle est à tous les chrétiens. C'est pas une mission qui s'adresse à une catégorie de personnes. À partir du moment où une personne, de toute façon, est passée par la repentance à la croix, elle désire une chose, c'est que les autres soient sauvés. Vous êtes d'accord? Que penser, sans juger, mais que penser d'un croyant, d'un chrétien qui n'a pas le fardeau des âmes? Et ça vaut peut-être la peine ce soir de lui demander au Seigneur ce fardeau. Vous allez me dire, mais attendez, vous n'arrêtez pas de nous enseigner qu'il faut se décharger de tous les fardeaux. Eh oui, et croyez-moi qu'il faut absolument le faire. Et même le fardeau des âmes est un fardeau qui doit continuellement être déposé. Mais c'est justement dans cette façon de vivre sa vie avec Dieu que l'intercession est ininterrompue. Et nous prions pour des âmes qui sont perdues, et ça nous fait du bien parce que nous avons déposé ce fardeau au pied de la croix, mais des fois, un quart d'heure après, ce fardeau peut revenir. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal? Avons-nous mal prié? Non. Quand la Bible dit chercher continuellement sa face, c'est un des moyens que Dieu utilise, le fardeau des âmes. Et si vous ne l'aviez pas ce soir, vous pouvez demander à Dieu qu'il vous donne le fardeau de votre prochain. Le fardeau de tous ceux que vous pouvez parfois côtoyer sans connaître même. Dire, Seigneur, donne-moi le fardeau pour les habitants de cette ville. Une église qui n'est pas vraiment pétrie de ce fardeau des âmes est une église qui est en train de rétrograder. Moi, je vous le dis très humblement. Je ne vous connais pas, mais je pense que si nous sommes là ce soir à la réunion de prière, c'est que nous voulons voir beaucoup d'âmes sauvées. Jésus l'a dit, vous me trouverez si vous me cherchez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Et une réunion de prière doit être vécue avec cet enthousiasme parfait. Il nous est dit que lorsque Jésus leur a donné cet ordre d'aller, mais d'abord d'attendre, ils sont partis au temple et ils ont loué Dieu. Ils ont vécu ça quand même dans une grande joie, sachant que Dieu leur avait fait une promesse et que Dieu voulait accomplir cette promesse. Tiens donc, cette promesse, est-ce qu'elle est encore pour les chrétiens du 21e siècle? Mes frères et sœurs, combien je voudrais que nous soyons tous convaincus que cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Mais de quoi avons-nous besoin? Aller par tout le monde. Vous savez, ça c'est le leitmotiv de l'église de Pentecôte. Mais vous discutez avec les missionnaires baptistes, c'est exactement le même fardeau. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais de quoi avons-nous besoin pour répondre à cette tâche? De quoi avons-nous besoin, hein? De super évangélistes? De quoi avons-nous besoin? Bien sûr qu'il en faut. Il en faut, ça c'est sûr qu'il en faut. Hein? De quoi avons-nous besoin? Et comment obtiendrons-nous ce dont nous avons besoin? Nous l'avons lu. Nous avons besoin d'une seule chose, mes frères et sœurs. Mais ça, j'en suis profondément convaincu. Nous avons besoin que d'une chose, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que nous serions prêts, chrétiens de Sainte-Agne, à nous appliquer, à rechercher Dieu pour obtenir individuellement, bien sûr collectivement, ce revêtement de la puissance d'en haut? Nous l'avons lu, le Seigneur nous a prévenu, sans lui, nous ne pourrons rien faire. Mais ça, c'est une parole extraordinaire. Il nous a vraiment prévenu de la manière la plus facile qui soit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aller évangéliser, c'est une chose, rester entre guillemets, à Jérusalem, jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, je crois que ça n'est une autre. Le baptême du Saint-Esprit est aussi appelé dans les actes la promesse du Père. Mes frères et sœurs, est-ce que nous serions prêts à laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, mon cœur, le vôtre, de telle sorte qu'il puisse accomplir en chacun de nous un baptême du Saint-Esprit, un temps de rafraîchissement? Est-ce que vous pensez que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit? Nous l'avons été, mais est-ce que Dieu pourrait nous rafraîchir, même ce soir? Après tout, la foi, c'est croire que Dieu peut le faire maintenant. Ne nous comportons pas comme Marthe ou comme Marie, qui parlait dans ces termes, si tu avais été ici, ou Marthe ou Marie qui a dit, ah ben il ressuscitera. Jésus a dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si nous croyons que le Saint-Esprit est là, il peut nous visiter, nous toucher, nous baptiser. Nous, c'est vrai qu'on va prier pour le fardeau des âmes, mais peut-être qu'avant d'aller, nous avons besoin d'attendre individuellement. Et ce n'est pas qu'une attitude, je crois, physique dans un lieu. Je crois qu'on a besoin de se retrouver dans sa chambre, dans son bureau, dans son église, dans une pièce à part. Mais je crois que c'est tout un état d'esprit attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut. En tous les cas, il leur dit bien, aux premiers disciples, de ne pas entreprendre cette œuvre sans avoir été baptisé du baptême de l'esprit. Et je crois que bien souvent, les églises ont voulu évangéliser sans avoir ce revêtement de puissance. Moi, je crois que nous en sommes là. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître qu'aujourd'hui, comme jamais, on fait de l'évangélisation. Je le disais hier à Monsieur de Dieu dans la voiture, il y a un pasteur de la région qui m'a appelé l'autre jour et qui me disait, on a fait 12 missions d'évangélisation. Tous les mois de l'année, on a fait une mission d'évangélisation dans notre église. On n'a pas gagné une âme. Au contraire, il y a des chrétiens qui ont rétrogradé pendant qu'on a fait ces missions. Vous avouerez quand même que ça fait quand même réfléchir. Et moi, je crois que la réponse, elle est là. C'est bien d'aller évangéliser, mais c'est mieux d'abord d'attendre pour que le Saint-Esprit nous visite et fasse quelque chose dans nos cœurs d'une manière profonde. Et moi, je suis persuadé que nous sommes des fois frustrés quand nous avons fait beaucoup de missions. Bon, nous, on n'est pas pris par ça, c'est sûr. Mais imaginez-vous, toutes ces églises, ils font des missions. Moi, je connais des églises, tout l'argent est investi à faire des missions d'évangélisation. Et on invite... Moi, il y a une chrétienne qui m'appelait l'autre jour d'une ville qui n'est pas de France, qui me disait, en pleurant, que l'église était à découvert à cause des missions d'évangélisation et que l'église se vidait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quel véritable drame. Alors, qu'ont fait les disciples ? Le bilan, c'est bien. Un bilan négatif, bon, c'est peut-être pas intéressant. Mais c'est quand même bien de comprendre que si nous n'avons pas les résultats que nous devrions avoir, c'est pas parce que nous n'allons pas, mais parce que nous n'avons pas suffisamment, individuellement et collectivement, attendu ce revêtement de puissance. Qu'est-ce qu'ont fait les premiers disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, l'enseignement, il est là. Ils se sont consacrés eux-mêmes. C'est ce qu'on veut, que les autres se consacrent. Est-ce que vous priez pour que les autres se consacrent? Est-ce que vous priez pour que les pasteurs, les leaders de l'Église soient de plus en plus consacrés à Dieu? Vous le faites. Mais vous vous souvenez cette histoire où il y avait la peste en Israël? Oui, c'était la peste. Parce que David avait résisté à Dieu et il avait fait le dénombrement. Son général lui avait donné un conseil. Non, ne le fais pas, ça ne sert à rien, etc. Non. Il avait désobéi. Le résultat, c'est que dans la Bible, ça fait pitié quand même. Quand on voit quand les leaders désobéissent, ça a tout le temps des répercussions sur le peuple. 70 000 hommes sont morts. Et le Seigneur est intervenu quand même, et David a été vers l'aire d'Ornan. Et là, quand Ornan a vu le roi des cieux, Ornan était certainement loin de s'imaginer ce qui se passait vraiment. Mais David, lui, le savait. Et quand Ornan a voulu tout lui offrir, l'air, le bois, etc., David a dit non. J'offrirai au Seigneur quelque chose qui me coûte. Et mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est bien de prier pour la consécration des pasteurs, et j'espère que vous le faites. De prier pour la consécration des anciens et des responsables, et j'espère que vous continuerez à le faire. Mais je crois que le problème de la consécration, c'est quelque chose de personnel. Quelque chose de profondément sérieux, qui nous amène individuellement à nous examiner nous-mêmes. C'est vrai que j'ai l'habitude de le dire, mais je crois très humblement, malgré toutes les bonnes exhortations que nous avons lorsque nous prenons la Sainte-Cène, que ça ne suffit pas. Qu'il y a peut-être un moment où nous devons soi-même passer ce temps devant Dieu. Les premiers disciples n'ont pas discuté, ils ne sont pas tombés dans tout un tas de projets, ils se sont consacrés eux-mêmes à l'œuvre et ils persévéraient, nous dit la Bible, dans la prière et dans la supplication, parce que Jésus le leur avait demandé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Allez, mais d'abord attendez. Et ça ne sert à rien de partir sans être revêtu de cette puissance. Le Saint-Esprit le leur a demandé, et ils l'ont fait jusqu'au jour de la Pentecôte. C'est ça le seul chemin. J'allais dire une solution. Non, c'est le seul chemin que l'Église doit suivre si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus dit, dans ce fameux commentaire sur la parabole des trois amis, dans Luc au chapitre 11, « Et si vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. » Et nous voyons bien dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit doit être réclamé. Et là, pendant les 10 jours qui ont précédé l'ascension de la Pentecôte, eh bien, les apôtres, ils se sont retrouvés là, dans la chambre haute, ils ont intercédé, ils ont supplié, ils ont dû peut-être renoncer à tout un tas de choses, des occupations habituelles, pour vraiment chercher la face de Dieu. Ce texte de Luc 11 nous informe, nous indique que que Dieu veut vraiment nous baptiser du Saint-Esprit. Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ce n'est pas une loterie. C'est Dieu veut vous baptiser à qui? Qui Dieu veut baptiser? Les meilleurs? Il n'y en a pas de meilleurs. Dieu veut nous baptiser à tous. Et ce texte nous l'enseigne vraiment. Et que cela doit être vraiment un sujet de prière. Mais pas un sujet de prière à la réunion de prière. Pas un sujet de prière, le temps de mon culte personnel. Quand la Bible dit chercher continuellement sa face, je crois que la prière c'est vraiment d'abord un état d'esprit. Parce que si je prie, Seigneur, bénis la ville de Toulouse, bénis les voisins du quartier, bénis les perdus, tu vois, tous ces hommes pervers, ces homosexuels, ces prostituées, ces pauvres, ces riches, Seigneur, allez Seigneur, bénis-les. Et que dans la rue, je n'ai pas de compassion pour ces gens que je croise, vous avouerez qu'il y a quand même un décalage entre ma prière et la vérité de ce que je suis en train de vivre. Et ça, je crois que le Seigneur veut nous y aider, afin que nous ne devenions pas des religieux. Si Dieu nous demande de veiller chaque jour, c'est pour que nous ne tombions pas. Oh, je ne parle pas de chute morale, mais je parle tout simplement de la tiédeur qui peut nous envahir et qui peut faire en sorte que nous ne comprendrons pas, que nous ne pourrons pas être revêtus de la puissance du Saint-Esprit si, de toute façon, nous ne le demandons pas. Le Seigneur Jésus est formel. Quiconque demande, reçoit. Et si nous ne recevons pas, eh bien c'est qu'il faut qu'individuellement, et moi je vais le faire pour ma part, eh bien nous puissions nous appliquer à comprendre pourquoi. Puisque Dieu dit, celui qui demande, il reçoit. Mais vous avouerez quand même qu'il y a parfois un grand abîme entre demander et recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est assez honnête, mes frères et sœurs? Tous pour dire ce soir, c'est vrai. Jésus est formel, quiconque demande, reçoit. Mais nous reconnaissons tous, en toute humilité, qu'il y a quand même cet abîme entre demander et recevoir. Et comment expliquer? Parce qu'après tout, on est sous le regard du Seigneur. On n'est pas une soirée de plus. On est sous le regard de Dieu. Comment expliquer honnêtement, pas avec un mauvais état d'esprit, mais très 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 honnêtement, cette contradiction qu'il y a entre ces deux verbes, demander et recevoir. Est-ce que vraiment nous voulons le baptême du Saint-Esprit? Moi, je me suis posé plein de questions ces mois passés, ces semaines passées. Est-ce que vraiment nous voulons le baptême? Parce que ça va changer beaucoup de choses dans l'Église. Vous le croyez que ça peut changer beaucoup de choses dans nos foyers? Moi, je le pense. Est-ce que nous le voulons vraiment? Dieu, de toute façon, n'a-t-il pas dit que si nous gardions de l'iniquité dans notre cœur, ça ferait obstacle à la prière? Est-ce que Dieu l'a dit, ça? Hein? Si nous gardions de l'iniquité, il s'en trouve parfois. Mais il faut de suite régler ces choses, ne pas attendre que le soleil se couche pour régler certaines choses et nous y accoutumer. Dieu n'a-t-il pas dit que si nous gardions du péché dans nos cœurs, contre un frère, contre une sœur, ça ferait également obstacle à la prière? Est-ce que ça vous est déjà arrivé parfois de manquer d'amour envers quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et d'avoir de la peine, c'est vrai, on a réagi. Mais vous savez, on peut s'habituer à garder un peu de rancœur envers quelqu'un. Nous pouvons prier. Et je pense qu'on prie. Et je pense que vraiment, on prie sincèrement et honnêtement. Mais justement, le fait de prier nous amènera de plus en plus à y voir clair sur l'état spirituel de notre âme. Vous priez avec joie, avec foi. Dites-moi, est-ce que vous priez avec foi? Je crois que c'est... Vous savez, moi je crois, parce que la Bible le dit, que Dieu regarde au cœur honnête. Moi je connais des gens, ils sont vraiment mal. Mais ils commencent à chercher Dieu avec honnêteté, il y a tout un travail qui se fait. Et des gens parfois qui paraissent peut-être bien corrects, tout ça. Mais il n'y a que Dieu qui voit l'honnêteté de quelqu'un. C'est pour ça qu'on n'a pas à se fier, mes frères, aux apparences. Nous prions, mais nous comptons peut-être sur nos propres forces. Est-ce que, inconsciemment... Alors que le Seigneur l'a dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il a plu à Dieu parfois de sauver au travers de grands nombres, mais parfois au travers d'un petit nombre. Parce que quand Dieu est là, qu'il y ait un grand nombre ou un petit nombre, où est la différence? Il n'y en a pas. Et ne, voyez, parfois on me dit, Seigneur, si on était plus nombreux, eh bien c'est une erreur. Rien que ça, c'est une erreur. Mais bien sûr que ça serait mieux qu'on soit plus nombreux, qu'il y ait davantage d'âmes sauvées. Mais l'intervention de Dieu, l'action du Saint-Esprit, ne dépend pas d'un nombre, d'une quantité d'hommes et de femmes dans un lieu. L'action et la puissance du Saint-Esprit, moi je crois, dépendent de cette recherche, de ce baptême, de cette soif profonde. Moi je crois que c'est une erreur. Bien sûr qu'on voudrait que toutes les églises de France soient pleines, mais il faudrait surtout qu'elles soient remplies de sa présence. Parce que même de toute façon, si elles sont remplies par la force de la chair, elles ne resteront pas longtemps pleines. Mais si elles sont remplies de la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu se fera. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Prier, 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 mais ne pas résister peut-être à la conviction de péché. Ça nous arrive parfois, même quand on, quand on marche avec Dieu, qu'il y a une conviction dans notre cœur. Et nous avons parfois résisté à une conviction de péché. Dites-moi, est-ce que j'exagère? Et nous n'avons pas des fois résisté à certaines convictions de péché, hein? Nous prions, mais peut-être nous refusons des fois de confesser un péché. Nous avons eu tort, nous nous sommes trompés. Bien sûr, des fois c'était entre nous et Dieu, on l'a déposé au pied du Seigneur, mais des fois ça concernait quelqu'un. Et nous avons eu honte, nous n'avons pas osé confesser. Ça, tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, quand même, est comparé à un souffle tout-puissant, comme on l'a chanté, mais il est aussi comparé à une colombe, et vous savez, une colombe, il ne faut pas beaucoup de bruit pour l'effaroucher et pour la faire partir. Eh bien, croyez-moi que je bénis Dieu pour l'Église. Nous prions, et nous prions avec joie, mais peut-être que nous pouvons des fois être bloqués par la mondanité. Est-ce que ça peut arriver parfois que les choses du monde viennent nous enlacer un petit peu? Est-ce que ça peut nous arriver? Dites-moi, mes frères et sœurs. Moi, je crois que ça peut nous arriver. Hein? Nous prions. Mais peut-être que des fois, nous n'avons pas été fidèles à certains engagements que nous avons pris devant Dieu. Et le Seigneur, bien sûr, dans sa bonté, nous le rappelle que dans ce domaine, nous avons été limites, que nous n'avons pas été assez sérieux. Mais que nous ne nous endurcissions pas, mais que nous puissions dire, c'est vrai, j'avais pris cet engagement et je ne l'ai pas tenu. Oh, ça ne va pas remettre votre salut en question, mais peut-être que nous avons peut-être désobéi à Dieu. Il nous faut absolument revoir ces choses. Nous prions, mais nous, comme je viens de le dire, nous pouvons résister au Saint-Esprit, résister à Dieu dans bien des points où il nous a déjà éclairés. Parce que moi, je fais quand même la différence entre les temps d'ignorance et les choses qu'on n'a pas encore compris. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est vrai que l'ignorance, ça peut être grave. Quand les chrétiens de Corinthe étaient dans l'ignorance, le Seigneur leur a dit, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceci ou au sujet de cela. Tant qu'on est dans l'ignorance, c'est pas méchant. Mais il y a quand même des sujets où Dieu nous a éclairés. Et peut-être nous avons des fois résisté à Dieu. Nous pouvons éteindre l'esprit aussi en justifiant certaines choses qui sont peut-être pas très bonnes, qui sont même mal. Mais nous les justifions parce que peut-être d'autres les font. Et c'est vrai que ça, de plus en plus dans les églises. Tout à l'heure, il y a un jeune qui est venu me voir, il me posait des questions par rapport aux jeunes chrétiens qui vont en boîte de nuit. Ce que j'en pensais. Alors, vous comprenez bien qu'il a vite compris ce que j'en pensais. Mais voilà, mais un chrétien qui va en boîte de nuit, mais dites-moi, c'est pas un chrétien. C'est une pierre d'achoppement. Alors, c'est tout. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est même pas la peine que je cite les versets que je l'ai cité tout à l'heure. Et vous comprenez bien, mes frères et sœurs. Là, c'est le cas extrême, mais nous devons faire attention, parce qu'on a vite fait d'attrister le Saint-Esprit. Attrister Dieu, peut-être qu'on a été injuste dans certaines choses, dans ce que nous lui devons. Moi, je crois que Dieu, c'est ce que nous lui devons dans bien des domaines, je ne pense pas qu'à l'aspect pécunier. On prie, mais peut-être aussi que la paresse a parfois pris le dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver paresseux? Pas moi, oui, moi je vous le dis franchement. Et ça, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut veiller. On prie, et on prie de bon cœur. Mais parfois, l'égoïsme enlève la compassion. Vous savez, des fois, on pense à nous et qu'à nous. Et surtout à nous, c'est tout à fait normal de penser à soi, de s'occuper de sa maison. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et je crois qu'il faut faire attention à certaines choses. Il ne faut pas s'appauvrir non plus pour après être à la charge des autres. Mais je pense que notre égoïsme peut aussi nous jouer des tours. Il peut y avoir vraiment dans le cœur un manque réel de consécration. C'est pas parce que j'assiste à toutes les réunions. Parfois on dit, on met la pression sur les gens, venez aux réunions, mais il faut être assez honnête. C'est pas parce que j'assiste à toutes les réunions que je suis le chrétien le plus consacré de l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ne peuvent peut-être pas assister à toutes les réunions et qui sont davantage consacrées que ceux qui le paraissent. Et je reviens sur ma pensée qui est importante à mes yeux, c'est que Dieu regarde au cœur. Et ne n'évaluons pas la spiritualité de quelqu'un par rapport à sa présence aux réunions ou par rapport à ses alléluia qu'il a prononcés. Je crois que c'est pas ça du tout la spiritualité. Et peut-être que nous n'obtenons pas comme Dieu le voudrait parce qu'il y a quand même de l'incrédulité dans nos cœurs. Est-ce que vraiment je crois que Dieu peut et veut m'accorder le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que je crois vraiment que Dieu veut baptiser cette Église? Est-ce que je crois que Dieu veut baptiser mon cœur, mon âme, mon esprit? Parce qu'on a vite fait de basculer dans l'incrédulité, on sait que c'est vrai, on sait que c'est une vérité historique que ça s'est passé au début de l'histoire de l'Église. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où le Seigneur va enlever l'Église, est-ce que vraiment encore Dieu veut baptiser l'Église du Saint-Esprit? De toute façon, même si c'est pour sauver que quelques âmes, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. et que nous devons bannir de notre cœur l'incrédulité. C'est quelque chose de terrible. Et s'il y en avait ce soir, eh bien, déposez cette incrédulité au pied du Seigneur. Moi, je vous dis, qui que vous soyez, si vous aimez Jésus-Christ, si vous êtes passé par la repentance et par la conversion, la prochaine étape, elle est là, rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il faut persévérer, frères et sœurs. Nous persévérons peut-être depuis longtemps pour certains, mais ça fait rien, il ne faut pas se relâcher. Il y a des conditions, on vient d'en voir quelques-unes comme ça, mais si nous les remplissons, et si... Au fur et à mesure que le Seigneur, dans sa bonté, nous révélera des choses. Il y a des choses que des fois les jeunes chrétiens font, des fois on se dit, mais c'est pas possible. Et puis après, quand on revient en arrière, on dit, mais attends, mais tu faisais pareil. Hein? Parce que des fois, on est exigeant envers les jeunes. Hein? On leur dit, celui-là encore, il n'a pas pris la victoire. Mais nous, pour certaines victoires, combien de temps nous avons mis? Alors, ça ne doit pas non plus nous amener à encourager les gens qui restent dans leurs échecs. Mais au fur et à mesure... Que le Seigneur nous montre certaines choses, que nous puissions avoir cette joie de dire, Seigneur, je vais en tenir compte. Ce soir, tu me montres dans ce domaine, ou dans tel autre, peut-être en rentrant, vous allez vous recueillir, et là, dans le silence de votre chambre, de votre cœur, eh bien, le Seigneur va vous parler. Parce que moi, je crois que Dieu parle souvent dans le silence de nos cœurs. De remplir ces conditions au fur et à mesure. Moi, je suis persuadé que, au fur et à mesure que par la prédication, par la lecture de la Bible, par le Saint-Esprit, ou par d'autres moyens que Dieu utilise, nous réglons les choses que Dieu nous montre, eh bien, nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Moi, je voudrais vraiment apporter ce qui a sur mon cœur ce soir, que Dieu veut baptiser l'Église du Saint-Esprit, et une fois que nous serons de plus en plus baptisés dans cette vie de l'Esprit, eh bien, nous aurons du succès pour aller et gagner des âmes. Parce que c'est ce que nous voulons, c'est gagner des âmes. Est-ce que vous aimeriez voir des milliers de baptêmes? Hein? Des milliers de baptêmes. Est-ce que c'est possible? Ben ouais. S'il y a des milliers de gens, il peut y avoir des milliers de conversions. Hein? Alors certains me diront, mais nous avons déjà le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous nous racontez ce soir? Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la paix. Mais c'est vrai. Et moi je bénis Dieu pour la paix qu'on a. Mais ce n'est pas parce que nous avons la paix et déjà une certaine mesure du Saint-Esprit que nous avons ce revêtement de puissance. Et je crois que les résultats nous prouvent incontestablement que nous n'avons pas ce revêtement de puissance. Soyons honnêtes, au moins, pour l'accepter, oui, il y a la paix, mais il y a une grande différence entre la paix et le revêtement de puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Hein? Je pense que oui. Hein? Les disciples, ils étaient chrétiens avant le jour de la Pentecôte. Non? Ils étaient chrétiens. Et ils avaient même fait certaines choses extraordinaires pour le Seigneur. Hein? Mais ils n'avaient qu'une certaine mesure de l'esprit. Et ils avaient la paix. Est-ce qu'ils avaient le pardon des péchés? Quand on a le pardon des péchés, on a toujours la paix. Et s'il y avait des personnes ce soir qui n'ont pas encore fait cette expérience extraordinaire de recevoir le pardon des péchés, demandez pardon à Dieu pour votre péché. Confessez que seul son sang peut vous purifier et vous recevrez le pardon des péchés. Et c'est une chose extraordinaire, mais combien de chrétiens en sont restés uniquement au fait de recevoir le pardon des péchés? Ils avaient le pardon des péchés, ils avaient déjà une certaine mesure de l'esprit, mais ils n'avaient pas ce revêtement de puissance. Et ce revêtement de puissance, il est encore plus utile, je crois, qu'à l'époque, pour gagner des âmes dans ce monde où la perversion est encore plus à l'œuvre, où les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Nous en avons besoin. Vous avez la paix ce soir? Vous êtes heureux si vous avez la paix, mais comme les apôtres, nous voulons aller plus loin dans la puissance qui nous a été promise. C'est valable pour les chrétiens aujourd'hui. N'en restons pas à la repentance et à la conversion. Quand on voit des repentances et quand on voit des conversions, on est content. Hein, on est toujours content. On a vu des baptêmes dimanche après-midi, on est content quand même, je veux dire. On est satisfait de voir de véritables expériences, des chrétiens qui veulent aller plus loin avec Dieu, etc. Mais souvent, nous en sommes restés là, à cause parfois des pasteurs, nous-mêmes, qui n'avons pas amené les chrétiens assez loin dans une expérience supplémentaire. Ça, je le crois. Alors, Dieu peut-il ouvrir les écluses des cieux ce soir? Dans un cœur, dans un endroit comme celui-ci, est-ce que Dieu peut déverser sa bénédiction? Hein, Joël a essayé d'ailleurs de le chanter tout à l'heure, c'était un beau cantique quand même. Le jour de la résurrection. Regardez avec moi ce texte, dans Jean, au chapitre 20. C'est un texte qui m'a toujours travaillé, interpellé, comment le Seigneur s'y est pris le soir de la résurrection. Jean chapitre 20, verset 19. Si vous voulez bien lire avec moi, s'il vous plaît. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ils n'ont pas reçu là. Mais moi je crois que si Jésus, enfin moi je ne suis pas un grand théologien, mais je crois une chose, si que le Seigneur a voulu faire cela, c'était quelque chose de très important et de très sérieux, il les a préparés à recevoir quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et c'était déjà des disciples, c'était des hommes de Dieu, ils avaient une mesure de l'Esprit, mais Jésus ce soir-là, et pas à l'occurrence, prépare l'Église également, lorsque nous sommes convertis et repentis, à faire une expérience beaucoup plus profonde. Et moi je crois, mes frères et sœurs, parce que quand même vous commencez à me connaître, que si nous sommes là ce soir sous le regard de Dieu, et que Dieu ait pu me mettre à cœur un texte sur la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il y a de fortes chances, si je suis inspiré, que ce soit la volonté de Dieu que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il est clair que si Dieu nous parle d'un sujet, c'est que normalement, il veut nous amener à la réalisation de ce sujet. Bon, si Dieu nous prépare ce soir, un peu plus, un peu mieux, à réaliser que recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça se prépare. Recevez le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux, ça nous rappelle l'expérience de la Pentecôte, et c'est quelque chose qui nous prouve à nous chrétiens, je vois qu'il y a les baptisés de dimanche après-midi, eh bien que vous ne devez pas rester à la repentance et à la conversion, vous devez aller maintenant dans cette nouvelle étape, et vraiment vous attendre à Dieu. Vous devez vous attendre à Dieu. Le Seigneur a été extrêmement compatissant ce soir-là. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs à cause de tout un contexte. Et il est entré. Il est entré. Les portes étaient fermées. Il est rentré. Il est Dieu après tout. Il est rentré. La paix soit avec vous. Mais voyez, je pense que si le Seigneur venait ce soir, malgré tous les reproches qu'il pourrait nous faire et qu'il devrait nous faire, avec beaucoup d'amour, il nous dirait aussi que la paix soit avec vous. Parce que là où le Saint-Esprit agit dans un endroit, là où on voit bien que l'Esprit de Dieu, il y a certains frémissements dans l'Église, on le voit bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la paix. Moi, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je suis heureux d'être avec vous. Mais je sais quand même que Dieu a davantage de choses pour nous en réserve. Que Dieu a préparé des choses et qu'il pourrait ce soir nous dire, eh bien, je veux souffler sur vous. Mais préparez-vous. Ce qui est mondain, enlevez-le. Ce qui est égoïsme, débarrassez-vous-en. Ce que le Seigneur nous montre à chacun, c'est pas la peine de faire un grand topo là-dessus. Je crois que si on est là et qu'on aime le Seigneur et qu'on veut voir des âmes sauvées, je crois qu'on n'aura pas de difficulté à accepter. Tout ce que le Seigneur aura à nous montrer, c'est peut-être pour certains des peccadilles, mais écoutez, il ne faut pas négliger certains détails. Je crois que c'est sérieux. En tous les cas, ils ont attendu dans la prière, ils sont restés dans la prière, ils voulaient obéir, aller par tout le monde. Après, vous savez comment ça s'est passé? Il y a eu de la persécution qui a dispersé l'Église et qui a évangélisé le monde. Mais une chose est certaine, ils ont obéi et ils ont prié. Et ils ont prié dans la foi. Mes frères, mes sœurs, nous avons la même promesse. La promesse que Jésus a faite ce jour-là, elle est à vous aujourd'hui. Elle est pour vous en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Et nous sommes dans une génération qui a occulté, tout simplement, la vie de l'Esprit. C'est vrai que quand on fait un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de débordements à cause des dons spirituels, du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. Et que même moi je suis très réticent, par rapport à certaines choses. Mais il ne faut pas oublier que l'Église que le Seigneur veut prendre est une Église où l'Esprit de Dieu agira. Dans les derniers jours, il y aura des prophéties, c'est obligé. Et nous devons, avec beaucoup de sérieux, chercher à faire la même chose, persévérer, prier, faire très attention à ne pas faire, à ne pas voir, à ne pas aller dans tout un tas de choses et de projets qui vont attrister le Saint-Esprit. Je crois que cette histoire de ces 10 jours passés dans la chambre haute montre vraiment ce qu'est la consécration, que nous devons parfois renoncer à nous-mêmes. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Mais moi, je fais ce que je veux. Ben oui. Mais moi je crois aussi qu'un chrétien fait pas ce qu'il veut. Un chrétien il fait ce que Dieu veut. Il a donné sa vie à Jésus-Christ et un chrétien dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans mon ministère, dans mon cœur, dans mon foyer, et bien qu'il fait obstacle, et bien que j'ai l'intelligence de déposer tout cela aux pieds du Seigneur. Il nous a dit qu'ils étaient dans le temple avec une grande joie, ils louaient, ils bénissaient Dieu. Ils attendaient cette promesse. Oh, ils avaient été bousculés un petit peu, ils étaient un petit peu dans la crainte, mais quand même, il y avait une promesse. Ben nous aussi, nous sommes un peu bousculés par ce qui se passe, mais quand même, la promesse est-elle pas plus importante que le monde qui peut nous bousculer? Nous l'avons toujours, mes frères et sœurs, comme je le disais jeudi après-midi, que notre langue ne reste pas attachée à notre palais, comme dira le psalmiste, mais que ce que nous pouvons faire, nous puissions le faire. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans une vie de l'esprit, mais moi aussi, je me mets avec vous, moi aussi, je n'estime pas y être encore, comme Dieu le voudrait. Alors, ce que je peux faire, eh bien que je puisse le faire. Je dois m'appliquer à prêcher, eh bien je m'applique à prêcher. Mais que surtout je recherche la face du Seigneur. Et que chacun d'entre nous, au-delà de l'activité qui nous incombe, nous puissions dire, Seigneur, ce que je peux faire, je vais le faire. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, eh bien il est parti avec la force qu'il a eue. Et à un moment donné, il nous a dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il avait commencé à faire ce qu'il pouvait faire. Alors, ne l'attristons pas, ne l'éteignons pas, prions en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Et l'apôtre Paul ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pas parce qu'on va s'appliquer à prier jusqu'à 10 heures qu'on persévère dans la prière. Je crois que on continue, on reste dans cet état d'esprit, on s'endort dans cet état d'esprit, on se réveille dans cet état d'esprit. Et quelles que soient nos activités, il y a cette communion d'esprit avec Dieu, cet état d'esprit continuel. Bien sûr qu'à des moments, en fonction de nos responsabilités, de nos travaux, nous n'avons pas du tout, nous devons nous appliquer. Mais nous ne perdons pas en fin de compte la communion. Parce que nous sommes tout le temps soucieux de faire les choses que Dieu nous demande. Soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes. Est-ce que c'est les psaumes ou c'est Radio Nostalgie qui m'entretient, hein? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pour moi, quand je lis ce verset, ça veut dire exactement aimez-vous les uns les autres. De toute façon, quelqu'un qui aime son prochain, il se soumettra. Enfin, il y aura cette intersoumission, c'est incontournable. Mes frères et sœurs, si Jésus dit, recherchons ces choses, recherchons la sanctification, recherchons la piété, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, recherchons la paix, enfin, toutes ces injonctions du Seigneur qui ne peuvent que nous préparer à recevoir le souffle puissant du Saint-Esprit. On l'a bien chanté, Joël, je vous rassure, mais est-ce que nous voulons le vivre, mes frères et sœurs? Est-ce que nous voulons le vivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec cette prédication et qui peut dire, Seigneur, bien, je vais m'appliquer. Moi aussi, je vais rester dans ma chambre haute. Ce n'est pas une question de vous enfermer dans votre chambre. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, c'est un état d'esprit. Mais quand même, il n'empêche qu'on a besoin de s'isoler quand même pour être seul avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'enfermerait pendant 10 jours dans sa chambre qu'il va forcément avoir le baptême du Saint-Esprit, à moins que Dieu le lui montre. Mais je crois qu'il faut vivre l'Évangile au quotidien, faire ce qu'on a à faire. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, eh bien fais-le. Et apportons, alors c'est pas, je ne le dis pas par rapport à la dîme, mais je le dis par rapport à notre vie. Apportons à la maison du Seigneur, ce texte de Malachie, vous savez, les dîmes et les offrandes, c'est-à-dire notre corps. Et nous verrons si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Vous savez, j'aime le dire, Dieu est plus intéressé que nous. Voulons-nous vraiment ce baptême du Saint-Esprit? Eh bien, que je tienne compte, moi le premier, de ce que j'ai partagé avec vous ce soir. Et nous nous aimons suffisamment pour faire des progrès, je crois. Alors que Dieu nous accorde sa grâce, il souffla sur eux. Il aurait pu leur faire des reproches. Moi, j'aurais été à la place du Seigneur, je peux vous dire que je les aurais enguirlandés. Mais voilà, le Seigneur, il connaissait leur cœur. Le Seigneur, il les aimait vraiment et il savait ce qu'il pouvait faire avec eux. Moi, je ne vous connais pas suffisamment, mais je sais une chose, c'est que Dieu sait ce qu'il peut faire avec notre Église. Et il connaît vos cœurs, il connaît vos attentes, il connaît votre recherche, il connaît votre amour pour lui, même s'il y a des choses qui patinent encore. Moi, je peux voir ce qui patine, lui, il voit ce qui va bien. Et il peut vous dire, la paix soit avec vous, recevez le Saint-Esprit, persévérez dans la prière, faites attention aux choses mondaines.